9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Prendre la direction d'un hebdo plutôt soixantenaire alors que la presse papier s'efface peu à peu face au numérique, le faire en période de crise sanitaire, diriger un journal de gauche alors que la gauche peine à se trouver, voilà en gros. La mission de la nouvelle directrice de la rédaction de l'Obs, il y a du boulot, la preuve, elle est là ce matin en direct et en présentiel. Un 1er janvier, bonjour Cécile Prieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, une directrice fraîchement nommée ne prend pas de vacances.
Si, elle en prend quand même quelques jours.
Vous êtes partie ? C'est incroyable. Je pensais que vous aviez passé ce moment de fête à regarder sur Instagram les photos de vos journalistes en vacances au soleil. Voilà un gros mois que vous avez pris la direction de l'Obs. Vous étiez avant directeur adjointe de la rédaction du Monde, qui fait partie du même groupe, tout ça est le même groupe. Est-ce que vous avez hésité lorsque la proposition vous a été faite ? Est-ce que vous avez hésité un peu, longtemps, pas du tout ?
J'ai d'abord réfléchi pour savoir si c'était un défi que je pouvais relever. Moi, j'ai pas beaucoup longtemps hésité parce que d'abord c'est un magnifique magazine, c'est un très beau média, et puis parce que voilà, c'est un challenge personnel et collectif qui m'intéresse énormément. Cette rédaction, elle est très riche, elle est très intéressante. Elle est riche de 135 journalistes qui ont des valeurs, une histoire, un passé et qui a un avenir vraiment très intéressant à construire ensemble. Donc voilà, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est une aventure collective. Le journalisme, c'est un sport collectif. Donc ça m'intéressait de rejoindre une nouvelle rédaction. Bon, pas très loin de ma rédaction d'origine qui était Le Monde.
Non, il n'y a pas un gros déménagement. Ça
non, j'ai changé de 3 étages en fait, dans le nouveau bâtiment qu'on occupe à Austerlitz. Et voilà, et je suis ravie d'avoir rejoint cette rédaction. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, on va les faire ensemble.
Votre nomination a été approuvée par 60% des suffrages exprimés. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même le symptôme d'une rédaction un peu divisée ?
Non, je pense pas du tout. Je pense que 60%, c'est vraiment pas si mal pour une candidature extérieure, si je puis dire, puisque la rédaction, au moment où je me suis présentée devant elle, ne me connaissait pas. Donc il a fallu évidemment que j'apprenne à me faire connaître, que je les rencontre aussi.
Une campagne interne ou comment ça
se
passe ?
Non, une campagne, ce serait bien, c'est un grand mot pour dire que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de journalistes. Et évidemment, je me suis présentée, je leur ai demandé de se présenter et j'ai aussi... présenter les pistes sur lesquelles j'avais envie de travailler. Et voilà, c'est sur ces enjeux, sur ces envies aussi qu'ils ont voté.
Vous succédez à la tête de l'Obs à une autre femme, Dominique Nora. Je dis une autre femme parce que ça reste quand même assez rare dans la presse française. Dominique Nora a souhaité retrouver le terrain et l'écriture. C'est pour ça que sa place était à prendre. Je remarque que c'est aussi le cas de Luc Brunner au Monde qui a laissé sa place à Caroline Monod. Bon, il faut bien des gens pour diriger, mais il faut croire que c'est usant, non ? Je vous dis ça alors que vous venez de prendre votre fonction. Vous avez conscience de ça ? C'est vraiment un rôle usant qui vous attend ?
Usant, c'est fatigant, comme tous les boulots à responsabilité, si je puis dire, mais c'est surtout très passionnant. Et moi, j'aime vraiment ça, encadrer des journalistes. En fait, mon travail, c'est de créer les conditions pour que les journalistes s'expriment au mieux, pour que chacun puisse trouver la bonne manière de faire du journalisme, d'enquêter, de révéler. Donc voilà, créer les conditions pour qu'une rédaction s'exprime et qu'elle puisse prendre toute sa place dans le débat public, moi, ça m'intéresse énormément. Donc ça, voilà, c'est un métier qui me passionne. Donc pour l'instant, je suis loin d'être usée.
Oui, vous démarrez. Mais il y a aussi une question d'autorité, évidemment, dans tout ça. J'imagine que vous vous êtes posé la question. Comment exercer son autorité quand on dirige une rédaction ? Il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que vous avez une vision ? On va parler évidemment de vos projets sur le fond. Mais est-ce que vous avez aussi une vision de ça ?
Je pense qu'une rédaction, c'est pas comme une société ou une entreprise classique. C'est d'abord un collectif. Donc en fait, c'est surtout beaucoup, beaucoup de discussions. Et le partage d'une vision ensemble. Voilà. Donc, c'est des discussions éditoriales. C'est aussi, évidemment, des moments où on doit trancher. Moi, ça, voilà, j'ai pas, c'est vraiment des choses qui ne me font pas peur. J'aime bien décider, j'aime bien donner des impulsions, j'aime bien écouter, j'aime bien partager. Donc, je pense que c'est comme ça, en fait, que se joue la manière de diriger une rédaction aujourd'hui.
Alors, que faire et comment le faire ? Vous avez déjà en partie hein, répondu à cette question, affirmer et déployer la voix singulière de l'Obs. L'Obs, à l'origine Nouvel Observateur, lancé en 1964 par Claude Perdriel et Jean Daniel. Jean Daniel, qu'on va écouter tout de suite dans une archive qu'on a retrouvée et qui date de 1994.
De gauche, en général, nous étions extrêmement divers. Si vous voulez, on a placé la contradiction dès le premier numéro. Pourquoi ? Parce que dans les deux parrains, regardez ce que ça allait donner ensuite, c'était, vous l'avez dit Sartre, mais c'était Madès France. Qu'est-ce qu'il y avait de commun entre ces deux hommes, en dehors du fait qu'ils s'estimaient, qu'ils avaient pour eux de la gloire, en tout cas du prestige, pour l'un ? Ou bien pas grand-chose, et on allait le voir, et nous avons voulu installer la contradiction parce que les éléments qui étaient chez nous, les amis, les universitaires, les écrivains, les journalistes, les professionnels, étaient entre eux de gauche, mais de quelle façon ils l'étaient, on peut dire que la suite a prouvé qu'ils n'étaient pas de la même. C'était une diversité installée.
Et voilà Jean-Daniel qui a disparu l'année dernière, il faut dire l'année dernière, maintenant en 2020. Quelle gauche ? Est-ce que la question demeure pour vous ?
Alors, quelle gauche vous voulez dire pour l'Obs, hein, en l'occurrence ?
Ouais, bah oui, pour l'Obs. Alors, pour l'Obs, et puis bah, peut-être que ça dépendra aussi de la situation politique, on ne sait pas.
Alors, d'abord, l'Obs n'est pas une écurie politique. Donc, c'est un média, c'est un titre. Donc, nous, on est guidés par des valeurs. Certes, ce sont des valeurs de gauche, mais on fait d'abord du journalisme. Donc, notre travail, ça va être d'éclairer le débat public, notamment au cours de cette future présidentielle, à gauche, évidemment. Donc, de faire vivre les débats à gauche, de montrer à quel point cette diversité est importante. Et à gauche, en ce moment, il y a un champ, vraiment, il y a une ébullition extrêmement intéressante, notamment autour de la social-écologie. On voit qu'il se passe beaucoup de choses.
On peut dire émiettement.
Émiettement, ébullition, peu importe, au fond. Ouais, hein, ouais. C'est toujours aussi comme ça que ça se passe à gauche. Il y a rarement, on va dire, un front uni. Voilà, mais peu importe, puisqu'en fait, c'est ça qui est intéressant à raconter. Nous, on n'est pas là pour unifier les gauches ou quoi que ce soit. On est là pour raconter ça. On est là aussi pour montrer tout le débat, la diversité du débat politique, et bien, bien au-delà de la gauche, évidemment. Ce qui se passe en ce moment dans le pays est très intéressant. Et donc un titre comme l'Obs se doit de raconter toutes les gauches évidemment, mais bien au-delà, évidemment le macronisme, évidemment l'exercice du pouvoir, évidemment les populismes, évidemment la droitisation du débat public. Donc c'est autour de tout ça évidemment qu'on va travailler. Et l'Obs, c'est d'abord un journal de débat, et c'est aussi un journal autour de la culture, de la politique, donc c'est
des
aussi
idées.
Des idées. Donc voilà, quand je dis affirmer et déployer la voix de l'Obs, c'est aussi retrouver ses fondamentaux et les affirmer.
On va développer cette voix singulière que vous décrivez. On va tenter de trouver les mots, enfin surtout vous, pour le faire, Cécile Prieur. On revient dans pas très longtemps après la pub. Vous êtes sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Toujours en compagnie de Cécile Prieur, la nouvelle directrice de l'Obs. Le dernier numéro en date de l'Obs est un numéro double, un peu froid comme tous les hebdos en cette fin d'année. Il faut bien que les journalistes se reposent. En tout cas, qui fait la une ? Eh bien, c'est elle.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Kamala Harris, évidemment, première femme vice-présidente des États-Unis, mais disait-elle, pas la dernière. Double symbole, Cécile Prieur, double symbole, parce que première femme noire. C'est curieux qu'il faille aller le chercher aux États-Unis, ce symbole-là. Il n'y avait pas de. Je sais bien qu'elle est racontée par
Christiane Taubira,
mais il n'y avait pas de tel visage en France pour la une de l'Obs de fin d'année.
D'abord, on a estimé que l'élection de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris, c'était vraiment l'élément vraiment le plus marquant de 2020.
Enfin, c'est elle qui fait la une, pas lui. Hein.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est un choix délibéré.
J'imagine.
Par ailleurs, il avait déjà fait la une au moment de son élection, en novembre, hein, la une de l'Obs. Pourquoi Kamala Harris ? Tout simplement pour le symbole qu'elle représente aussi, et pour... Et parce que ce que j'essaye d'expliquer dans l'édito, on pense, on est persuadé qu'elle ouvre la voie à une nouvelle manière de gouverner aussi. Donc voilà, il y a de plus en plus de femmes, bien que ce ne soit que 19 pays qui soient gouvernés par les femmes dans le monde, mais c'est déjà 19 pays, et elles marquent la manière dont elles gouvernent, en fait. On l'a vu dans la crise du coronavirus, et Kamala Harris, évidemment, c'est une fille d'immigrée, c'est une success story à l'américaine, et on sait bien que Joe Biden a créé ce ticket parce que c'est elle et parce qu'éventuellement elle pourra devenir la future candidate démocrate dans 4 ans. Voilà, donc pour nous c'était important de marquer symboliquement que Kamala Harris représente sans doute l'avenir aussi des États-Unis, mais aussi une nouvelle manière aussi d'exercer le pouvoir.
Oui, mais à nouveau cette remarque, il n'y a pas d'équivalent en France, c'est assez désespérant au passage.
Alors, pour l'instant, pas d'équivalent. Enfin, il y a des femmes politiques en France qui sont importantes dans le débat public. Ensuite, il faut bien voir que la démocratie américaine ne se structure pas du tout de la même manière que la française. Et donc, voilà, aux États-Unis, on sait qu'il y a plus d'opportunités pour les hommes et les femmes politiques d'émerger. À chaque campagne américaine, on voit des nouvelles figures. C'est malheureusement pas le cas en France. C'est vrai qu'en France, on a un petit problème d'émergence de nouvelles figures.
Qui vient d'où, selon vous
La structuration institutionnelle
c'est
aussi,
noyauté,
partisane et institutionnelle de notre pays. Je veux dire, la Ve République corsette quand même énormément la manière dont il faut passer par une structure partisane pour pouvoir émerger, etc. On voit évidemment, avec le phénomène du macronisme, par exemple, que...
Du macronisme.
Non, mais en tout cas, en fait, voilà, quand Emmanuel Macron a essayé de transcender ça, de créer son propre mouvement, etc., on voit, effectivement, qu'en France, il y a des tentatives pour faire autre chose, sortir des structures partisanes, mais c'est pas très simple. Et pour les femmes, ça l'est encore plus, évidemment, dans ce pays, puisqu'on n'est pas encore dans un pays qui... considère qu'être une femme serait une banalité en politique.
Ouais, puisqu'on en parle, vous êtes une femme, vous dirigez maintenant un hebdomadaire français, est-ce que c'est encore bien de le remarquer? Ou alors, vous, Cécile Prieur, vous n'êtes pas de sexe en dirigeant, vous voyez ce que je veux dire?
Alors moi, j'ai absolument aucun problème à revendiquer mon genre et mon sexe. Je pense au contraire, c'est important de pouvoir le dire. Et oui, je suis une femme et c'est notable, puisqu'en fait, nous ne sommes pas très nombreuses à diriger des médias ou nous ne sommes pas très nombreuses non plus à diriger tout court. Donc non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'au contraire, c'est important, si possible aussi, d'être un rôle modèle pour les jeunes femmes et les jeunes filles qui vont... nous succéder. Donc,
comme Kamala Harris, hein, à votre façon.
Oui. Moi, je ne suis pas de cette génération qui pense que hommes et femmes, évidemment, je suis pour l'égalité. Et voilà, mais j'ai aucun problème à revendiquer ça et à affirmer ça.
Alors, votre prédécesseur, avec un E à la fin, là, Dominique Nora, puisqu'on revient à cette fameuse ligne de l'Obs qu'il faut mettre en place, avait parlé d'un optimisme de combat. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reprenez ce flambeau-là?
Alors oui, ça me parle parce que je pense que l'Obs se doit aussi d'être un titre et un magazine qui parle aussi des solutions, qui parle aussi d'un journalisme constructif. Donc oui, c'est important de ne pas être que dans la déploration ou dans la critique, bien que évidemment le journalisme c'est d'abord ça, hein, c'est l'enquête, la révélation, et l'Obs ça va être aussi ça, ça doit être ça.
Ça veut dire, pardon, que vous allez mettre le paquet pour l'enquête en termes de moyens et de pagination sur certains sujets?
Alors on va surtout mettre le paquet en termes d'angle, hein, d'envie, d'idées et d'informations. Voilà. Donc le journalisme, finalement, ça ne s'autorise que de lui-même. Donc c'est d'abord des idées, c'est d'abord aussi des intuitions. Donc on va chercher, évidemment, notre rôle c'est d'enquêter et de révéler. C'est d'abord donc notre travail, hein, d'éclairer les faits. Voilà, mais et donc c'est naturel pour l'Obs de faire ça.
Vous savez déjà vers quoi iront ces moyens, justement, quel domaine? Vous dites quoi? L'environnement, la cause des femmes, vous pouvez les lister?
Alors, l'environnement, ça, c'est effectivement, en tout cas, les questions d'écologie, raconter justement ce bouillonnement dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est à la fois sociétal, politique, Voilà, il y a des initiatives partout et on voit comment la crise climatique structure en fait la vie des gens. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on a véritablement envie d'éclairer et d'enquêter. L'Obs, c'est évidemment aussi un magazine sociétal, donc c'est toutes les transformations de la société. C'est porter aussi les débats qui sont très importants dans le débat public, hein, être un peu aussi un porte-étendard de ces causes. Et c'est aussi évidemment un magazine politique d'idées et aussi un magazine culturel. La culture est très très importante dans l'Obs. L'Obs, c'est le magazine qui consacre le plus de place à la culture aujourd'hui. Et donc cet effort aussi, on va le déployer aussi sur le numérique. Un des grands axes de travail pour 2020.
C'est la priorité, le numérique, hein.
Bah, ça va être, c'est en fait, on va refaire notre site petit à petit. Et on, voilà, toute cette richesse de débats intellectuels et culturels que porte l'Obs dans son magazine papier, on va trouver des relais pour que tout ça s'exprime aussi sur le numérique.
Rapidement, 2022 n'est plus si loin avec sa présidentielle. Et est-ce que l'Obs soutiendra un candidat ?
Alors, l'Obs, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une écurie politique.
Oui, enfin, par le passé, c'est arrivé.
Alors, ça a pu arriver, effectivement.
Vous ne le ferez plus ?
Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ce sera un débat collectif. Tout dépend aussi de la manière dont l'élection présidentielle se structure. Donc, c'est bien trop tôt pour répondre à ça.
Vous avez reçu des objectifs de vente à atteindre ?
Non, nous n'avons pas d'objectif avec Grégoire de Vessière, qui est le directeur général avec qui je travaille. On n'a pas d'objectif chiffré. Par contre, on a des ambitions, bien sûr, notamment celle d'augmenter nos abonnements numériques.
Mmh. Et il vous reste 20 secondes, Cécile Prieur, pour me dire comment vous avez trouvé les vœux hier soir à 20h d'Emmanuel Macron.
Ah ! Eh bien, j'ai trouvé que la collection de citations, de noms, de prénoms de Français, c'était finalement une manière intéressante d'essayer de clore cette année. Et que, voilà, la dernière image au coin du feu était étonnante.
Il n'a pas dit Cécile, il ne vous a pas cité.
Non, enfin, bon, cité, ça viendra peut-être. D'ailleurs.
Non, moi non plus, je suis très déçue. Merci beaucoup Cécile Prieur, directrice de l'Obs. Je vous souhaite un bon courage et je vous souhaite une bonne année. À bientôt.
Merci, vous aussi.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.